L'intégrale Rio 2016 à 5h13 du matin sur RMC. On va parler basket avec Isabelle Yacoubou et la Dream Team, Isabelle Severino et Brahim Asloum. C'est reparti.
RMC, intégrale Rio 2016. Le retour de Direct Laporte, le show 100% rugby avec Bernard Laporte, c'est demain dès 20h sur RMC. 32-16, 45 centimes la minute. Toute l'actualité des Jeux Olympiques de Rio avec Le Parisien et Aujourd'hui en France et RMC. RMC, intégrale Rio 2016, Pierre Dorian.
Donc toujours avec Brahim Asloum et Isabelle Severino, on accueille tout de suite Isabelle Yacoubou. Salut Isabelle.
Bonjour.
Dans une magnifique Isabelle. Robe rouge assortie aux cheveux.
On voit qu'elle.
Exactement.
On voit que toi.
Merci.
Tu as ôté tes affaires de basketteuse pour mettre la tenue de soirée. Et c'est vrai que la transition doit être un peu rude parce que cette équipe de France a fait une très très belle campagne qui se termine par une quatrième place. Tout à l'heure, on a suivi donc ce match pour la troisième place remporté par les Serbes 70-63. C'est dur à digérer, Isabelle?
Oui, très dur, même si des heures sont passées entre temps et que voilà, on essaie de trouver du positif dans ce parcours. Ça fait 3 mois qu'on est ensemble avec des équipes jeunes, beaucoup de joueuses qui sont justement intégrées à cette équipe de France, qui ont démontré durant ce parcours qu'elles sont prêtes à jouer à ce niveau-là. Alors oui, elles sont prêtes, mais il va falloir justement ajuster. Sur les matchs importants, on ne peut pas faire ces erreurs-là. Mais voilà, c'est une équipe dont moi j'ai été très très fière d'amener jusque-là. À 2 jours avant le début des Jeux, on perd Céline Dumerc et toute la France a été derrière nous en disant voilà, on ne passera peut-être pas le premier tour. Donc on finit une petite finale qu'on perd. Alors oui, il y a la déception aujourd'hui, mais j'ai envie de nous dire tous, voilà, rappelons-nous d'où on vient et ce qu'on a fait, faut pas tout jeter non plus.
Contre la Serbie, c'était trop difficile ou peut-être que vous aviez fait, je sais pas, vos meilleurs matchs avant et que affronter les États-Unis en demi, c'est peut-être pas un cadeau, Isabelle, parce que c'est un match qu'on a le droit de perdre. Finalement, Isabelle est en train de parler à quelqu'un en dehors de la vitre, de l'autre côté de la vitre.
Aucune qui passe. Non,
je disais, jouer la demi-finale contre les États-Unis, et finalement, c'est peut-être pas un cadeau, non? Parce que c'est un match qu'on a le droit de perdre, entre guillemets.
Bien sûr.
Est-ce que c'est difficile de se remettre dans la compète après?
Non, je pense que surtout où on a pu se tromper, c'est essayer d'aller les défier. Donc, on laisse beaucoup d'énergie
défier
dans
les
cette.
Américaines.
Oui, exactement. On laisse beaucoup d'énergie dans cette bataille contre les colossales. On sait que ça peut arriver, hein, une fois tous les 10 ans de les battre. On l'a déjà fait en 2014 et évidemment, elles sont pas prêtes de l'oublier. Mais voilà, on perd de la fraîcheur, ce qui est important pour garder de la lucidité sur les derniers matchs, je pense. Après, on perd aussi de la naïveté qui nous a peut-être servi jusque-là. Et on le perd contre une équipe serbe qui est très experte et qui ne pardonne rien. Et justement, on profite de ces erreurs-là qu'on fait pour justement se mettre en confiance. Mais bon, après, le basket, c'est quelque chose. Après, je pense qu'au niveau de la vie du groupe, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. Je les appelle, c'est ma famille de crabes. En famille, on choisit pas.
Famille de crabes?
Oui, vous connaissez cette publicité où il y a des crabes qui partent en vacances. Il vaut mieux être en groupe. Non, vous la connaissez?
Ça me dit quelque chose.
Il y a un crabe, là, sur la plage. Il y a un oiseau qui veut le manger. Ouais. Et au signal, ils se regroupent tous. Et tous, ils plument l'oiseau. Voilà. Alors oui, l'image, elle est magnifique.
Il y a des anecdotes de l'arrivée déjà 5h16 du matin qui envoie du bois. Ah ouais, franchement.
Donc, j'ai comparé, moi, en réunion interne, notre équipe à ses crabes. Et depuis, c'est resté. On est la crabe family. Mais voilà, c'est vraiment ça. On sait qu'individuellement, on n'est peut-être pas prête à défier ces colosses du basket. Mais on sait qu'en équipe, en jouant ensemble, on peut y arriver. Et peut-être que ce soir, on a peut-être un peu manqué de ça, on a peut-être un peu manqué de fraîcheur, on a peut-être manqué un peu de cette lucidité-là, se dire voilà, faut pas essayer de sauver l'équipe toute seule, mais justement aller chercher la force dans les autres Et j'ai envie de dire, c'est de l'expérience pour le futur.
Et oui, et d'un point de vue extérieur, c'est vrai que du coup, quand on a appris le forfait de Céline Dumais, on s'est dit, oh là là, mince, l'équipe est foutue, parce qu'on sait à quel point elle a porté, ouais, notamment sûr. En 2012, et ça n'enlève rien du tout à l'équipe. Et moi, j'ai presque envie de vous dire bravo, parce que c'est dur de perdre quand même une joueuse comme Céline. Et on a découvert plein d'autres jeunes filles qui ont pris des places. Je me rappelle plus, j'ai pas tous les noms en tête.
La
remplaçante
Jeunesse.
Notamment qui partait de Charleville-Mézières, c'est ça?
Bah oui.
Je suis à Charleville-Mézières et hop, excusez-moi, on m'attend à Rio, j'y vais. Ça doit faire bizarre.
C'est ça, elle était en vacances, en préparation physique pour sa saison et on l'appelle. Il faut que tu prennes l'avion ce soir, demain matin, il faut que tu sois à Rio parce que absolument ce jour-là, il fallait qu'elle soit confirmée avec son passeport à Rio.
Ouais.
Donc la fille, elle saute dans l'avion et débarque. Amel, qui nous a apporté durant cette compétition, c'est pas facile hein, de rejoindre un groupe qui a été fait depuis 3 mois, qui vit, qui a déjà des.
Puis toi, t'as lâché parce que tu te dis, bon, bah, c'est bon, au dernier moment, là, c'est plus possible. Eh ben, si.
C'est ça, exactement. Mais c'est ça aussi la magie de l'équipe de France. Je crois que Céline, elle aurait été la première d'accord avec moi pour dire que l'équipe de France, c'est pas une joueuse. Et même si elle n'a pas été là, le groupe.
Elle nous l'a dit. Elle nous l'a dit cet après-midi encore qu'elle était super fière.
Voilà.
Que même si elle avait été là, bah, peut-être que vous auriez pas été. Ouais. Elle aurait pu rater ses matchs aussi et qu'on peut pas refaire l'histoire, mais qu'elle était super fière de ce groupe et que ça avait vraiment révélé des joueuses aussi.
Mais c'est vraiment la mentalité de cette équipe de France et c'est ce qui l'amènera, je pense, assez loin parce que voilà, on est là pour donner et les individualités comptent très peu ici.
Isabelle Yacoubou, donc, dans notre studio au Club France sur RMC avec Brahim Assoum et Isabelle Severino. L'équipe de France de basket féminin, donc, qui termine à la 4e place. Il y a eu un vrai match hein, contre les Américaines, Isabelle. Hein. Vous êtes vu les battre un moment en demi-finale?
On y a cru, jusqu'à la mi-temps, on y a cru. On sait très bien que les Américaines, il faut les titiller, il faut les faire déjouer, il faut les énerver. Et à la mi-temps, on y était. Alors, le projet, évidemment, c'était de rester le plus près possible parce que dans le money time, on sait jamais, hein, un petit coup du sort, ça peut passer. Mais bon, on voit quand elles décident d'accélérer dans un troisième carton, on n'est plus là. Mais bon, c'est tout juste les meilleurs joueurs.
Il
n'y
a que le troisième, hein, parce que sur les trois autres cartons, il y a match, il y a quelques points d'écart.
C'est cool.
Il y a un 25-8 dans le troisième. Bon, et voilà. Et vous le saviez, parce que je me souviens, alors je sais plus, je crois que c'est Valérie Garnier qui disait avant le match, quand on commence à prendre un écart, après, c'est quasiment impossible de revenir contre ces équipes-là.
Oui, à ce niveau-là, il n'y a rien qui pardonne et c'est comme la Serbie ce soir, j'ai envie de dire. On tient 5 minutes.
Les Serbes vous ont fait mal à 3 points.
Voilà, exactement. Ça se passe où? Dans le troisième quart-temps. Donc, quand tu prends un écart à ce niveau, c'est difficile de revenir et surtout, les autres, ils lâchent pas. Au bout, il y a une médaille qu'on a tous envie d'aller chercher. Exactement. Donc, évidemment, tu peux pas non plus compter sur leur
défaillance.
Voilà, exactement.
Un dernier mot, Isabelle, parce que tout à l'heure, t'as évoqué donc la jeunesse de cette équipe et l'expérience que ça allait apporter. Olivia Epoupa et Marine Johannes, c'est quand même deux filles qui ont du talent, hein.
Ah oui.
C'est l'avenir de l'équipe de France.
Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'elles ont démontré qu'on pouvait compter sur elles. C'est des jeunes qui ont 21 ans et que le grand public peut-être découvre, mais que nous on a déjà connu parce qu'elles ont déjà fait des stages avec nous et c'est juste des talents purs. Après, je pense qu'elles ont su justement s'intégrer dans cette équipe-là. Elles disent que c'est nous qui les avons intégrées, mais je pense que l'équipe de France c'est vraiment un projet, il faut y adhérer et elles sont complètement rentrées dedans. Alors ce sera l'avenir, c'est sûr. Et j'ai envie de dire voilà, tout ça vos postes à les regarder dans le futur.
Puis c'est important qu'il y ait vraiment une transmission dans les équipes, qui est les cadres, hein, les plus anciens et qui intègrent pour que les plus jeunes redeviennent des cadres aussi.
Ouais,
et
exactement, c'est peut-être ça aussi la force de l'équipe de France féminine de basket, parce que vraiment on a réussi, nous avant nous il y a une génération, on a réussi nous à reprendre le flambeau et à le transmettre aux plus jeunes. Et je pense que la force elle est là, de transmettre les valeurs de l'équipe de France. On est là pour donner au maillot, on est là pour vraiment se sacrifier, l'ego n'existe pas ici et les filles elles ont complètement adhéré au projet, donc c'est que de la fierté.
Vous avez pris exemple un peu sur l'équipe de France de handball, hein, qui est quand même une équipe de sport co qui a eu ce changement générationnel et qui continue à gagner, donc qui peut être un exemple pour vous.
Bien sûr, les filles, on les a vues là ce soir et évidemment, on est heureuse pour elles parce que je sais qu'à Londres, ça a été dur pour y avoir assisté personnellement. Et là, les voir, même si ce soir, je pense qu'elles sont un peu amères parce qu'elles finissent sur une défaite, mais finir les jeux
après,
sur une défaite,
après elles sont contentes.
Exactement.
Mais c'est toujours dur de finir sur
une défaite. C'est ce que je leur ai dit. Les filles, vous inquiétez pas. Dans un moment, vous allez vous réveiller avec cette médaille-là et je pense que vous aurez un autre regard.
Et quand on voit les autres, voilà, une quatrième place, t'as envie de dire, excuse-moi, ta médaille d'argent.
Voilà. Je la prends.
Savoure-la bien, voilà, c'est ça.
Exactement. On ne pourrait pas la voler dans la vie.
Si, je suis sûre que tu peux réussir à en choper une ou deux, c'est ça.
Merci beaucoup, Isabelle Yacoubou, encore félicitations à cette équipe de France de basket.
Bonne continuation.
Comme à Londres, nous a fait rêver. Isabelle Yacoubou, donc, sur RMC, dans l'intégrale Rio 2016. Il est 5h23. On va dire un mot aussi de la médaille de Sarah Ouramoun Brahim. Médaille d'argent, certes, mais qui fait son bonheur parce que on n'a pas encore eu le temps de revenir sur ces médailles-là, puisque les invités se succèdent dans le studio d'RMC au Club France où c'est la fête. À part pour Brahim, qui, lui, ne pense qu'une chose. Son lit et son oreiller.
Brahim, il a tout donné dans l'influx dans la journée.
Tu me relèves dans pas longtemps en plus.
Alors, sont en train de s'installer les plongeurs de l'équipe de France de natation, Benjamin Auffray et Mathieu Rosset, qui sont en train de s'installer tranquillement. Voilà, et on les installe tranquille. Alors, deux disciplines totalement différentes. Il y a du tremplin à 3 mètres et du tremplin à 10 mètres.
Pas tremplin, plateforme.
Plateforme.
Parce qu'en fait, le tremplin, c'est un tremplin et la plateforme, elle bouge pas en fait.
Bonjour messieurs, bonjour Benjamin, bonjour Mathieu.
Bonjour.
Voilà, tu mets le casque tranquille. Alors, allons-y directement, la différence entre le 3 mètres et le 10 mètres. Qui veut y aller?
Le 3 mètres, ça rebondit. Donc il y a une prise d'élan et après ça rebondit. Et le 10 mètres,
ça
bouge pas, il y a juste un revêtement pour pas que ça glisse. C'est vrai qu'un tremplin à 10 mètres serait un peu dangereux.
Très bien, c'est pas du tout le même sport du coup. Enfin, pas du tout le même sport. Ça demande, je suppose, des qualités différentes, Benjamin.
Ouais, exactement. Moi, j'ai commencé en tremplin, j'ai fini à 10 mètres, parce que voilà, niveau physique, je suis assez fin. Donc il faut plus des grosses cannes pour mettre en tension le tremplin et se créer soi-même la hauteur qui permet de faire les rotations. Alors qu'à 10 mètres, voilà, c'est un peu de détente et puis tout le monde a les mêmes 10 mètres. Et donc voilà, c'est ça qui est différent surtout.
D'accord. Alors Benjamin, t'as fini quatrième à 10 mètres. C'était une grosse perf, mais c'est quand même une quatrième place. Tu dois naviguer entre deux sentiments.
Exactement. Ouais, je suis entre deux sentiments. J'espérais pas faire quatrième en arrivant. J'étais déjà une finale, ça aurait été magnifique. Je l'ai faite. Je suis content de ça, mais ça reste une quatrième place. Après, le troisième est loin quand même, donc.
Non mais c'est une super performance quand même d'être quatrième.
Ouais voilà c'est ça.
Être quatrième, il y a des quatrièmes places qui où on a un petit peu de mal.
Ouais exactement c'est ça.
Etc. Là il faut.
Non je suis vraiment à 100% heureux. Après c'est juste que ça reste la quatrième place donc c'est un peu énervant.
Limite cinquième tu poserais pas la question quoi.
Ouais c'est ça. Je suis quand même plus content la quatrième pour le coup. Pour une fois c'est bien. Et non ouais j'ai eu une saison difficile. Je reviens de blessure. Je me suis fracturé le sacrum il y a quelques mois. Donc là j'ai repris il y a un mois et demi.
Ouais, ça fait pas beaucoup pour des Jeux Olympiques. Ouais,
ouais non, voilà. Donc c'est pour ça, arriver sur une performance comme ça, ça fait 3 ans que je fais du 10 mètres et retour de blessure, c'est cool.
Alors je te pose la question, je pense que de nombreuses personnes se sont posées quand ils ont eu 10 mètres sous leurs pieds, là, quelle que soit la situation. Est-ce qu'on se fait peur à 10 mètres?
Ouais, tous les jours.
C'est vrai?
Tous les jours.
T'as toujours une petite appréhension avant de sauter, un truc comme ça, le track?
En compète. En compète, j'avoue que j'ai pas mal de choses à poncer sauf ça. Mais l'entraînement, ouais. Après, en pleine saison, quand on a fait chaque plongeon des centaines de fois, ça va.
C'est quoi qui fait peur, de faire un plat ou se blesser sur une épaule, sur...
Bah, en fait, je pense que non, c'est la même peur que tout le monde, c'est la hauteur. Tout simplement, c'est, la peur du vide au fond, c'est. Ouais, il a la hauteur, parce que on fait le même plongeon à 3 mètres et ça peut aller. Et on va plus à 3 mètres, on a peur de toucher la planche, on va dire. Nous, là, c'est juste la hauteur, je pense.
Et à partir du traumatisme, parce qu'à 10 mètres, moi j'ai plongé une fois à 10 mètres, et franchement, j'ai eu l'impression de passer dans un rouleau compresseur de fou. Comment, parce que vous plongez tous les jours? J'en parlais tout à l'heure avec Mathieu, enfin, il y a quand même des petits traumatismes qui sont liés, j'imagine, à 10 mètres.
À 10 mètres, c'est vrai que ça fracasse. 10 mètres, on arrive à 60 km/h. Donc l'eau, c'est un peu un mur. Surtout que quand on fait une bonne entrée à l'eau, on réunit toutes les forces au même endroit. Il n'y a vraiment aucune répartition. Donc tout est dans les poignettes, mais on se fait vraiment déchirer. Donc on compte vraiment les plongeons. On est vraiment à un plongeon près à 10 mètres.
Et alors c'est quoi la technique? Parce qu'il y en a plein qui sautent à 10 mètres, des calanques, etc. C'est quoi la technique pour ouvrir l'eau ou pour se faire un petit peu moins mal?
On va attraper ses mains fermement, l'une avec l'autre. Et dès qu'on va toucher la surface, en fait, on va les écarter fort pour créer un trou. C'est ça qu'on dit. Enfin, faire un trou, on va créer un trou d'eau. Il faut que le corps rentre tout dans ce même point, là où il n'y a plus rien.
C'est pour ça qu'il faut bien rentrer tout droit.
Ouais, tout droit, en fait, avec la rotation. Au début, on touche un petit peu à plat et au fur et à mesure. Mais il faut vraiment que tout passe.
C'est-à-dire qu'au moment où tu touches l'eau, il faut que tu penses à bien écarter.
J'y pense plus, mais c'est ce qu'on apprend.
C'est ce qu'il faut faire, quoi.
Exactement.
Ouais. D'accord. À 3 mètres, Mathieu, quand ta spécialité, c'est le 3 mètres, est-ce que tu fais de temps entends une petite montée d'adrénaline à 10 mètres comme ça pour rigoler ou pas?
Oui, bien sûr. Donc peut-être à 3 mètres, ça va être un peu différent d'une 8 mètres parce que bien sûr, la hauteur, c'est pas la même. Après, à 3 mètres, moi, j'ai une particularité, c'est d'envoyer des très gros plongeons quand même. Et à un moment donné, en fait, ce qui nous fait peur, c'est la perdition, en fait. Quand on envoie 4 tours et demi en avant ou quand on envoie 3 vrilles.
Tu sais plus où t'es, c'est ça?
Voilà, c'est à un moment donné, il faut se dire, faut pas faire une faute en l'air, que ce soit dans la prise de repère, sinon si on se perd, en fait, c'est un peu la hantise du plongeur, c'est pire qu'un plat, en fait. C'est vraiment de se perdre dans l'espace, c'est vraiment de se dire, j'arrive plus à plonger, quoi.
Et tu sais plus où est-ce que tu vas toucher l'eau, en fait, c'est ça?
Et se perdre sur 2 tours et demi, ça va aller, puisque l'atterrissage, on va dire qu'il va être pas correct. Enfin, je veux dire, ça va aller, mais se perdre sur 4 tours et demi, on risque de se faire
plus tu tournes, et plus la vitesse à laquelle tu vas atterrir va aller de plus en plus vite, en fait.
Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'on va aller de plus en plus vite, et donc l'impact dans l'eau va être de plus en plus violent. Donc, si on arrive droit à 3 mètres, ça, c'est pas trop traumatisant par rapport aux 10 mètres. Mais si on arrive à plat, ça peut faire très très mal.
Alors on est avec Benjamin Auffray et Mathieu Rosset, donc les plongeurs de cette équipe de France olympique, 10 mètres et 3 mètres. On va vous garder quelques minutes, si vous voulez bien.
Avec plaisir.
Pour continuer à parler de votre discipline, c'est vrai qu'on connaît peu, parce qu'il est 5h29 et dans quelques minutes, ce sera les infos sur RMC, c'est l'intégrale Rio 2016. Brahim Asloum ou ce qu'il en reste, Isabelle Severino. Tu vas être couché, Brahim, franchement, tu me fais de la peine, je te jure. On va parler boxe après les infos.
Boxe, ouais.
Ok.
Et après,
tu vas, ça marche.
RMC Intégrale Rio 2016, Pierre Dorian.
L'intégrale Rio 2016 sur RMC avec Brahim Asloum et Isabelle Severino. On est avec les plongeurs. Benjamin Auffray, 4e à 10 mètres, et Mathieu Rosset, 23e à 3 mètres. Messieurs, on découvre, c'est vrai, votre discipline. Vous, qu'est-ce que vous avez découvert ici à Rio? Qu'est-ce que vous avez apprécié particulièrement, Mathieu? T'as eu le temps de t'intéresser à autre chose que à ta compète ou pas?
Non, pas trop.
Vraiment.
Non. À part toutes les épreuves des Jeux Olympiques, c'est un peu difficile puisqu'on s'entraîne pas mal. Et après ma compète, j'ai bien profité du Club France, on va dire, et des compètes des autres. Mais
t'as eu le temps d'aller te faire un tatouage quand même?
Oui, je me suis quand même fait le tatouage de Rio 2016. J'ai le Londres 2012 sur l'autre poignet et Rio 2016 sur je me suis fait sur l'autre poignet.
T'as fait ça où?
J'ai fait ça juste à côté du Club France, dans un très bon tatoueur, et ça fait plaisir.
Et toi, Benjamin, quelque chose qui t'a marqué?
Moi, contrairement à Mathieu, c'était mes premiers jeux. Mathieu, ils avaient déjà fait, donc déjà j'ai découvert les JO et c'était vachement sympa. J'ai pas eu le temps de me faire tatouer parce que moi je sors de la compète, c'était il y a quelques heures à
peine. T'es pas obligé non plus.
Chez les nageurs, en général, les tatouages, il y en a quand même un paquet, quoi. Que ce soit les nageurs de course, vous aimez ça, quoi.
Je prévois sur les anneaux, j'avoue. Que ça fait longtemps que je me le disais et je pense que ça va.
Bon, maintenant que tu les as fait, tu te dis que tu t'autorises à les faire, en fait.
Ouais,
c'est ça.
C'est ça, exactement. J'attendais ça et puis là, finale olympique, c'est cool quand même.
Alors, Mathieu et Benjamin, vous faites quoi à côté du plongeon? Vous faites des études? Toi, t'es à l'INSEP, Benjamin?
On est tous les deux à l'INSEP.
Vous êtes tous les deux à l'INSEP.
Ouais. Et moi, je fais une licence d'informatique à l'université Pierre et Marie Curie.
Donc en parallèle, mais les cours sont à l'INSEP?
Il y a un peu de cours à l'INSEP, ouais, il y a un peu de cours sur le campus, mais ils sont vraiment cool. J'ai des avantages au niveau des études, je peux dédoubler, j'ai des enseignants qui viennent me faire cours juste pour moi ou en particulier, comme ça on peut faire un mourir. Du coup, quand en fait je suis absent en compète ou en stage, je perds pas de temps, en fait. C'est pas le cours continu et moi j'essaie de raccrocher à la fin, c'est qu'on s'arrête, vu que je suis tout seul, on s'arrête D'accord. Quand je pars, on reprend quand je reviens. Et du coup, grâce à ça, j'ai réussi à avoir un rythme. On fait du condensé quand il faut, on prend du temps quand il faut en prendre. Et j'ai réussi à avoir un rythme et valider petit à petit les étapes dans ma licence.
Toi, Mathieu ?
Alors moi, c'est un peu plus compliqué. Moi, ça fait 2 ans que j'ai arrêté les études pour me consacrer au sport. Donc j'ai passé mon BESAN, mon BE pour être donc c'est maître nageur, mais aussi entraîneur en plongeon. Derrière, j'ai fait un BTS juste après les Jeux Olympiques de 2012 dans le monde du paysagisme, et ce qui m'a valu une CIP, donc c'est un contrat d'insertion professionnelle où en fait je bosse dans une entreprise dans le Nord chez Sabreux, et derrière ça me permet de m'entraîner et derrière d'avoir un salaire aussi. C'est un contrat avec la Fédération Française de Natation, mon club, l'État, la ville de Lyon, parce que je viens de Lyon. Et donc, ce qui m'a permis de m'entraîner derrière, tout en ayant un salaire, on va dire. Et je pense qu'après, bah là, après les Jeux, je vais me remettre dans les études pour avoir un meilleur diplôme d'entraîneur et puis pour pouvoir peut-être faire des études dans le monde du cinéma.
Alors, tout n'est pas parfait, évidemment. Isa, c'est des thématiques qu'on aborde beaucoup pour les sportifs dans des disciplines où on gagne pas beaucoup d'argent. Mais il y a quand même des choses hein, qui existent. Et l'exemple de Benjamin ou de Mathieu prouve qu'on n'est pas non plus complètement livré à soi-même quand on fait du sport de haut niveau en France. Ton système, Benjamin, c'est quand même pas mal adapté à tes contraintes.
Ouais, j'ai de la chance. C'est vrai que l'université Pierre-Marie Curie, ils ont un bon contrat avec l'INSEP. Et ils vont jusqu'à délivrer 2 diplômes en fait. C'est-à-dire que j'ai le diplôme normal et j'en ai un autre CATES que j'ai validé, une licence, un master, un doctorat en tant que sportif de niveau. Et c'est pour justifier que si par exemple j'ai eu ma licence en 5 ans, c'est pas parce que je suis complètement débile. Ouais. C'est plutôt justement pour valoriser ça. Rio, quoi. Voilà, moi j'ai même prévu de faire ma licence en 6 ans pour l'instant. Donc voilà, voilà, 6 ans, si on arrive à quelqu'un, voilà, bonjour, j'ai 25 ans, j'ai qu'une licence, j'ai mis 6 ans à la faire. Ouais, c'est un petit peu ramollo. Non, en fait, justifie et ça valorise en même temps le truc, donc ça c'est top. Ouais.
Merci beaucoup Benjamin et Mathieu, Benjamin Auffray, Mathieu Rosset, les plongeurs d'équipe de France olympique. Dans un instant, Fabien Gillot va nous rejoindre, mais d'abord, si vous avez raté ce qui s'est passé hier, voici donc les médailles du jour. C'était de l'argent pour la France sur RMC. Eh ben, on va attendre un peu, alors, hein, c'est pas grave. Hein. Alors, Sarah Ouramoun, on va en dire un mot avec Brahim. Normalement, je pensais qu'on allait l'entendre, mais on va pas l'entendre, c'est pas grave. Médaille d'argent contre la Britannique Nicola Adams. Elle était assez contente, hein. Pourtant, on n'est jamais contente de terminer sur une défaite, mais quand on l'a vu tout à l'heure dans le studio, sa médaille d'argent, ça lui va.
Oui, ça lui va dans le sens où elle a arrêté 2 ans pour faire une petite fille et l'élever et puis se remettre à la boxe, ce qui n'était pas gagné d'avance. Vous savez, quand vous faites du très haut niveau, parce qu'elle était en championne du monde en 2003, et revenir au plus haut niveau, donc c'est déjà difficile. S'arrêter complètement, c'est pratiquement impossible. Elle est arrivée à le refaire. Et elle est en finale des Jeux Olympiques et malheureusement elle a échoué, certes, mais c'était sa finale de rêve, c'est celle qu'elle espérait. Oui. Certes, l'anglaise était extrêmement forte, faut rappeler que l'anglaise était championne d'Europe, championne du monde en titre. Oui. Et là elle vient d'être double championne olympique, donc c'était vraiment
olympique aussi.
Ouais, c'était vraiment une craque et y a pas à rougir parce qu'elle a vraiment donné le meilleur d'elle-même. Elle a peut-être été un petit peu stressée en début de combat et l'anglaise a utilisé correctement son allonge, a su être efficace. J'avais l'impression qu'elle a envoyé quand même du pâté l'anglaise.
Bon, Brahim,
c'est pas évident.
Tu sais quoi, comme je t'aime beaucoup, je te propose quelque chose. Tu vas aller faire dodo un quart d'heure plus tôt.
Je valide.
C'est prévu. Vas-y, va.
Tu sais que j'ai une heure de chemin quand même.
Vas-y,
j'ai une heure de route.
Tu nous trouves juste des places pour la finale de Tony Yoka.
Je me lève à 5h du matin, heure brésilienne.
Allez, vas-y, va te coucher.
Merci.
On a besoin de toi encore demain, une dernière fois pour Tony Yoka.
Je préfère ma voix.
Et dans quelques minutes, vous aurez une belle photo de Pinky Winky Brahim Asloum sur Twitter. Fabien Gillot nous rejoint, le premier médaillé de ces jeux avec le relais 4x100. Salut Fabien.
Salut.
Ça va?
Super. Écoute, le plaisir de vivre des Jeux Olympiques. On bat le record de médailles. Moi, c'est mes 4e, il y a tout le temps autant d'émotions. J'étais derrière là, avec tous les Français, ça fête les médailles. Ça fait tellement plaisir de voir les larmes de Brahim qui commentent avec autant d'émotions. Donc c'est ça l'esprit olympique de l'équipe de France et c'est vraiment une fierté d'en faire partie.
Alors vu ton bronzage, je pense que tu as passé autant de temps à la plage que dans les salles de compète quand même, non?
Oui, exactement. Nous on a la chance d'avoir la 2e semaine où on va supporter les autres Français. et on profite des joies brésiliennes.
Alors qu'est-ce que tu retiens de ces derniers jeux? Est-ce que c'est bien les derniers déjà? Est-ce que
oui, ça sera mes derniers. Ouais, 32 ans dans 4 ans, ça sera beaucoup trop pour moi. En tout cas, dans la natation, ça demande une hygiène de vie et une rigueur au quotidien. Qu'à 32 ans, au-delà de ça, ça commence à être vraiment compliqué. Mais
l'année prochaine, tu continues ou pas?
Oui, je pense que je vais annoncer l'arrêt de ma carrière au mois de décembre. Donc je finis la saison en petit bassin avec l'équipe de France et ensuite sera temps pour moi d'aller faire autre chose, mais de rester proche du sport quand même.
Tu fais pas les championnats du monde en grand bassin l'année prochaine?
Non, je n'y serai pas.
Donc ça veut dire que tu vas finir ta saison sur la prépa olympique et tu referas pas une saison de foncier, etc.
Voilà, exactement. Ouais, finir sur la saison petit bassin et ensuite rester proche du sport. Je sais pas encore sous quelle forme, mais il y a beaucoup de choses à faire. Le sport français continue d'avancer. Je trouve que en France, on le voit avec l'environnement social qu'on a, le sport prend de plus en plus de place et ça a une réelle importance à mes yeux. Donc, je pense qu'on est plusieurs à vouloir y contribuer, continuer de faire avancer les choses.
Plutôt dans l'entraînement ou dans l'encadrement ou
j'ai envie de m'ouvrir en fait. C'est certain que je resterai proche de la natation. Entraîneur, c'est sûr que non pour le moment. Maintenant, j'ai envie de m'ouvrir à d'autres sports aussi. Donc peut-être le CNOSF, porter la candidature de 2024 aussi.
Oh, tu seras sollicité, ça, de toute façon.
Mais une fois de plus, je le dis, je pense que quand je vois les émotions qu'on vit ici, quand je reçois les messages des gens qui sont en France, qui se lèvent la nuit pour nous et pour tous les autres sports français, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a que le sport qui peut te faire vivre ce genre d'émotion et il faut continuer à le faire d'avancer. Et
tu te vois dans un autre sport ou ça sera forcément la natation? Parce que vu comment t'en parles, j'imagine que tu as des idées en tête.
Je suis un vrai passionné de sport en règle générale, donc la natation, j'en serai pas loin. Je suis un amoureux du rugby, je suis un amoureux du sport co. Je vous dis, je viens de quitter il y a quelques minutes la plupart des médaillés français, ceux qui ne sont pas médaillés. Il y a une vraie osmose là-bas derrière.
Ouais.
Et c'est tellement bon de vivre ça. On bat le record de médailles ensemble. Je vous le dis, Brahim, les larmes de Brahim, des anciens, les nouveaux qu'on n'attendait pas qui font des médailles. C'est la magie des jeux.
Il y a eu vraiment pas mal de records historiques, notamment sur des médailles comme la boxe féminine, mais l'handball français, le pentathlon moderne. Ça, c'est des trucs incroyables parce qu'après, nous, on a l'habitude de certaines médailles et d'ailleurs, bon, en natation, on attend en plus parce qu'on attend toujours ceux, sauf qu'il y a 4 ans qui se sont passés. On attend ceux qui normalement doivent y aller. Et là, on a énormément de surprises avec des sports qui sont assez. Et peut-être le triplé aussi historique. Et donc, là, beaucoup de choses historiques.
Ouais, bien sûr.
Et puis,
pour l'avoir vu, moi, au fil des années, le sport français gagne de plus en plus, se retire les barrières, ne s'empêche plus de croire en ses rêves. Et c'est ce qui fait plaisir à voir. C'est ce qui fait qu'on voit des sports qui étaient inconnus et qui sont en train d'éclore aujourd'hui au grand public. Et ça, c'est génial.
Est-ce que tu t'imagines consultant et donner ton avis sur l'équipe de France de natation? Vu les jeux que tu as vécu où il n'y a pas eu que des bonnes choses à commenter.
Oui, je l'ai déjà fait dans le passé quand je m'étais fait opérer. Donc, il y a des chances que je le refasse un jour. Mais n'attendez pas de moi d'attaquer les sportifs. Même le jour où j'arrêterai, et dans 10 ans, je serai toujours du côté des sportifs. Parce que le quotidien est...
Je sais, on me le reproche assez souvent.
Et tu le sais, mais il faut pas avoir peur de dire les choses. Si ça s'est pas bien passé, il faut le dire. Et aujourd'hui, on se cache pas que nous, on attendait plus. Maintenant, il faut aussi relativiser. Il faut se reprojeter, se reconstruire. Et c'est peut-être plus une culture anglo-saxonne. Et arrêtons d'être franco-français, de taper tout le temps sur ce qui va pas et prenons le bon.
Quand tu vois Romain Barnier, Alain Bernard s'écharper par un média interposé, ça te fait de la peine ou finalement c'est le jeu, c'est normal?
Je pense que ça fait partie du jeu. Moi, je vois surtout deux amoureux de la natation qui ont envie que la natation gagne des médailles et un maximum de médailles d'or. Donc au final, vous voulez que je vous dise, moi, je pense que certaines crises sont constructives, si on peut appeler ça une crise.
T'as vécu, tu trouves que ça a été des bons jeux pour l'équipe de France de natation? T'as réussi à en profiter ou il y a eu trop de psychodrames et de mauvais résultats pour ça, Fabien?
Pour en avoir vécu plusieurs, je pense que la loupe médiatique des Jeux Olympiques fait que chaque petite chose prend une ampleur monumentale et que si on avait vécu exactement la même semaine mais sur un championnat d'Europe ou un championnat du monde, on en aurait beaucoup moins parlé.
C'est sûr, mais du coup on en a parlé, vous, ça a dû avoir des répercussions aussi en interne.
Mais pas tant que ça, en toute honnêteté, pas tant que ça, parce que un garçon comme Florent avec qui j'étais dans la chambre et qui finit en fin de semaine, ça l'a pas atteint plus que ça. Vraiment, ça a été des petits conflits comme on a pu vivre aussi dans le passé, mais vu qu'on gagnait, on n'en parlait pas du tout.
Bien sûr. Et alors le relais 4x100, donc qui était invaincu depuis 4 ans, il fait deuxième cette fois-ci. Malgré tout, bon, les Américains avaient l'air intouchables, ça restera un bon souvenir.
Ouais, bien sûr. on sort de la course avec cette touche d'amertume, cette touche d'anxiété. On aurait tellement aimé mieux. Maintenant, on est resté pendant 5 ans pratiquement invaincu. On en a gagné 8 parce que les médias comptabilisent le grand bassin, mais nous, on compte aussi le petit bassin qui est très dur à gagner aussi. Attention, donc voilà, on ne peut que les applaudir. Ils ont été plus forts que nous ici. Et je pense qu'il y a un beau potentiel pour le relais quand même de demain. Et ils ont la possibilité de se remettre à gagner dès l'été prochain, je pense.
Alors Fabien, t'es un amoureux de sport, tu nous l'as redit. Qu'est-ce qui t'a fait triper dans ces Jeux Olympiques? Là, il y a un truc, une épreuve, une médaille, un match.
Je dirais moi, il y a plusieurs choses. Il y a les sports émergents, comme on en parlait, le pentathlon, la médaille d'Élodie Clouvel. Je l'espère, la médaille d'or de Tony Yoka et un couple tous les deux médaillés en or, ça pourrait être magique. Et les handballeurs qui sont en piste pour conserver leur titre et faire un triplé. Donc ça fait partie des belles histoires du sport français. Donc les sports émergents, ce couple un peu magique qui n'est jamais arrivé, qui ça n'est jamais arrivé à ce jour.
Il y a des histoires de toute façon, c'est encore mieux. Alors là, on sait que ça s'est bâti, mais à la boxe, avec ce record de médailles, et puis avec tout ce qui s'est passé en partant de Alexis Vastine, où tous les champions y vont pour ça. Hein, le DTN nous le disait, on s'est mis au milieu du ring, on s'est dit qu'on allait tout chercher pour lui. Donc on part de quelque chose qui est lourd en émotion, avec des jeunes qui se sont battus. Il y a un record de médailles, il y a un couple qui va se marier en plus derrière. On n'a pas parlé d'un couple, mais il y a quand même aujourd'hui Valentin Belot qui ne concrétise pas, qui était champion du monde en titre en pentathlon moderne, alors que Élodie Clouvel ça fait la même médaille. Donc là, peut-être, tu vois, c'est plus dur quand t'as un couple que t'es à deux, que t'es favori et qu'il y en a un qui réussit et pas l'autre. Donc voilà, toutes ces histoires-là, elles font que on parle encore plus du sport quand que plus des médailles aussi.
Et pour le vivre de l'intérieur, le Club France, là, ce qui est génial, c'est il y a les médaillés, il y a les non médaillés. Tu sens qu'il y a un partage d'expérience, d'échange. Ça se soutient, ça se félicite, oui. ça s'épaule dans les moments plus difficiles. Et c'est ce qu'il y a de si bon dans l'équipe de France Olympique.
Mais ça, c'est un travail qui a commencé déjà des Pékin. Et moi, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, les résultats que l'on a et ce soutien qu'il y a de l'équipe de France, c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps et qui bascule aussi de génération en génération, parce qu'il y a les plus anciens qui présentent les plus jeunes aux autres, etc. Et il y a beaucoup de rencontres et d'échanges depuis voilà, trois Olympiades.
Fabien Gillot, donc, dans l'intégrale Rio 2016 sur RMC, t'as beaucoup parlé de l'équipe de France, t'es pas allé voir d'autres épreuves qui concernaient pas les Bleus?
Non. Un grand
support.
L'équipe de France.
L'équipe de France. Et ensuite, comme à chaque Olympiade, on a été se promener dehors et représenter aussi dignement l'équipe de France.
Il y avait une épreuve rooftop très sympa.
J'espère que t'es pas sorti avec Ryan Lochte pour le coup.
Non, surtout pas.
Histoire de ouf quand même, histoire incroyable.
Ouais, histoire de ouf. Ça prend une ampleur aussi monumentale et c'est les États-Unis, donc tout prend. Mais bon. Ils ont déconné, on peut pas leur retirer, ils ont déconné.
Bon, ils ont déconné et puis surtout ils ont menti. Malheureusement pour eux, ils vont devoir s'expliquer devant la justice. Bon, ça devrait pas être trop grave au final, mais ça ressemble à l'affaire Bastaro, c'est un gros mensonge qui devient une affaire
d'État,
qui les dépasse complètement. Au final, c'est pas très grave, mais est-ce que tu sais si le pipeau est complet ou s'il sortait vraiment du Club France, parce que ça a été leur truc hein. Début de l'histoire, on était en fait au Club France, on va dans une autre soirée et sur le chemin, on se fait arrêter par des policiers. Ils étaient vraiment ici?
Apparemment, ils sont passés au Club France. Ouais. Moi, j'ai n'étaient pas ce soir-là, mais apparemment, ils sont vraiment passés au Club France. Ouais.
Bon, ce qui confirme quand même que le Club France a été identifié très rapidement comme le lieu de fête à Rio. Hein.
Ouais, exactement. Bah, y a beaucoup de locaux, de Brésiliens qui sont là tous les soirs. Hein. C'est réputé. Et apparemment, celle de ce soir aussi.
Et puis, il y en a plein des autres sports qui viennent nous voir. Hein. Je parle hier de l'Hollandaise qui a gagné, je ne me rappelle plus de son nom, tu le dis vachement mieux que moi. Championne olympique du 10 km.
Bah, tu vois, tu me dis ça, du coup.
La championne olympique du 10 km. Vendral, libre.
C'est son prénom qui m'échappe.
Sharon
Voilà, c'est ça. Bah, elle disait qu'elles étaient super ravies de venir. Bon, après, les athlètes, ils aiment bien aller voir ce qui se passe un peu ailleurs, mais le Club France a bonne réputation ici à Rio.
Absolument. Dernière chose, Fabien. Demain, donc, il y a le VTT, il y a le handball et il y a Tony Yoka. T'as ton programme déjà?
Ouais, bah on va essayer de faire en sorte d'aller voir les
aujourd'hui, trois. Aujourd'hui, avec le décalage horaire.
Alors, la magie du dernier jour. c'est qu'on a rarement les places et que comme beaucoup de Français ont terminé, on se déplace en masse. En général, on remplit un bus et on arrive devant les portes à 30, 40, 50 et on force un peu le passage. C'est ce qui s'est passé à chaque fois pour les handballeurs.
Et je vais te dire, a priori, là, t'as pas besoin de forcer parce qu'il y en a quelques-uns qui m'ont dit qu'ils rentraient et qu'ils faisaient...
Ouais, la sécurité laisse un peu à désirer.
Ah, en plus, oui. Tous les Brésiliens demain seront à la finale du volley Brésil-Italie.
Ouais, tranquille sur le handball.
À Pékin, je me souviens que oui, la France, la salle était pleine de Français. C'était, tu y étais ou pas?
Ouais, bien sûr, ouais. Et justement, ça a été, c'est un de mes bons souvenirs parce qu'on est arrivé devant et personne ne nous laissait rentrer. Et à un moment, il y en a un qui a dit, bon, ouais, c'est bon, on force. Hein. Et on a dû rentrer à une bonne quarantaine facilement.
Fabien Gillot, donc dans l'intégrale Rio 2016 sur RMC. Merci encore d'être venu. Et puis, bravo pour toutes tes médailles, toute ta carrière.
Merci
parce
beaucoup.
Que il y en a un certain nombre au final. Hein.
Ouais,
c'est bien
de
finir avec une médaille.
Il y en a un bon nombre. Et merci à RMC parce que vous faites partie des gens qui sont des vrais passionné de sport et vous restez toujours objectif. Ça fonctionne pas, il faut le dire. Mais en tout cas, vous êtes des amoureux du sport et merci beaucoup.
Eh ben, c'est sympa. Écoute, on prend le compliment avec plaisir. D'habitude, on fait les modestes, mais là, à 0h57, au bout de 15 jours de compétition, on va pas
parce que c'est une grosse compète pour les jeux, pour franchement les consultants et les journalistes.
Pour les médias, ouais,
ils font un taf de ouf.
Et Pierrot, il est. On est tous très contents d'être ici, hein, ouais. C'est clair. Hein, on est tous très heureux
mais
de faire les jeux.
Quand même aussi.
Mais c'est clair qu'à la fin, on tire. Merci encore, Fabien Gillot. C'est l'heure de Bourdin direct avec Chloé Cambrelin pour vous réveiller avec tous les résultats des jeux, mais toute l'actualité en France, Chloé, bien sûr.